Bonjour à toutes et à tous et bonne année. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale. Une émission préparée par Bertille Bourdon, Margot Léridon, mais aussi Lucas Lazo et Nicolas Sendé, réalisée par Anna Holweck et à la technique ce matin, Jacques Azubert. Et comme chaque vendredi, table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde. Nous reviendrons sur l'engagement de la France au Sahel, alors que le Premier ministre Jean Castex réveillonnait hier soir avec les forces armées de l'opération Barkhane basée au Tchad. Fin d'année douloureuse pour les soldats qui ont perdu 3 des leurs en début de semaine et qui porte à 47 le nombre de militaires tués depuis le début des opérations Serval en 2013. Il est temps de faire évoluer l'opération Barkhane, déclarait le président Macron en novembre dernier. Certains y ont vu les signes de l'annonce d'un désengagement, mais les armées sur place sont-elles prêtes à prendre le relais? Où en est-on de la guerre contre le terrorisme au Sahel? On en discute dans une vingtaine de minutes avec nos invités, la politologue Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, et puis le chercheur Bakary Sambé, directeur de l'Institut Tombouctou à Dakar, et puis évidemment avec notre partenaire Marc Semo qui nous rejoindra pour co-animer la discussion. Mais pour commencer, place à notre retour de terrain et la journaliste que nous recevons ce matin nous revient d'Afghanistan. Bonjour Margot Ben.
Bonjour, bonne année à tous.
Bonne année également, merci beaucoup d'être avec nous ce 1er janvier. Vous êtes journaliste indépendante, vous revenez de trois semaines d'un séjour en Afghanistan. C'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez beaucoup séjourné. Alors on pourra vous lire dans les prochains jours, notamment dans le Figaro, mais on peut d'ores et déjà voir ou revoir vos reportages sur les sites d'Arte de France 24, comme celui réalisé sur les étudiants de Kaboul, diffusé le 19 décembre dernier sur Arte.
Un jour, les talibans sont venus me harceler dans la rue. Ils ont fouillé mon téléphone, ont demandé pourquoi je m'étais rasé la barbe, pourquoi mes cheveux étaient aussi courts. Je leur ai répondu que j'étais étudiant. Ils ne m'ont pas puni, mais ils m'ont menacé. Beaucoup de mes amis ont reçu des menaces similaires. Et bien sûr, nous avons peur que s'ils reviennent au pouvoir, nous ne pourrons plus étudier comme avant.
Les étudiants que vous êtes allés voir, Margot Ben, expriment leur peur du retour des talibans au pouvoir. Et on peut imaginer que c'est une crainte qui est partagée par une grande partie de la population. Mais que craignent les étudiants en particulier? Pourquoi est-ce que vous êtes allé mettre votre caméra à l'université de Kaboul?
Eh bien, je suis allée à l'université de Kaboul tout d'abord parce que elle a été attaquée tout récemment, le 2 novembre, il me semble. Et c'est une attaque qui a été revendiquée par Daesh. Donc, en fait, les étudiants, ils n'ont pas seulement peur d'un retour au pouvoir éventuel des talibans, qui n'est pas non plus garanti, parce que pour cela, il faudrait un accord entre le groupe armé et le gouvernement, donc qui sont en train de négocier à Doha en ce moment, mais les étudiants, en fait, ils sont de plus en plus attaqués. Daesh revendique des attentats non seulement dans les universités, mais également dans les écoles, les centres de cours du soir. Donc, étudier à Kaboul et même à travers l'Afghanistan devient de plus en plus compliqué. Et puis, les étudiants et surtout les étudiantes ont peur que si effectivement les talibans venaient à revenir au pouvoir ou venaient à réintégrer l'arène politique, ce qu'ils cherchent par ces négociations à Doha, eh bien, elle ne pourrait plus étudier comme avant. Certains cours ou certains métiers pourraient peut-être, en tout cas, c'est ce que craignent les étudiants et surtout les étudiantes, pourraient être hors de leur portée. Donc, en fait, il y a tellement d'inconnus que les étudiants ont tout d'abord peur pour leur sécurité, mais ils ne savent même pas si les études qu'ils et elles font aujourd'hui auront un sens dans les mois ou les années à venir, si effectivement les talibans reviennent au pouvoir.
Et malgré cette peur, Margot Ben, ce qui est très impressionnant dans les témoignages que vous avez recueillis, je pense notamment à cette jeune fille qui a été blessée donc lors de l'attentat que vous évoquez début novembre. Un camarade lui rend visite chez elle et elle dit qu'elle n'a absolument pas l'intention d'abandonner ses études, qu'elle rêve d'y retourner le plus vite possible et que son rêve, c'est de devenir ambassadrice.
Oui, effectivement, et c'est d'ailleurs un discours que m'ont tenu la quasi-totalité des étudiants que j'ai rencontrés. C'est-à-dire que les attentats, en fait, deviennent de plus en plus normaux, on va dire, de plus en plus fréquents, donc dans les universités, dans les écoles, mais aussi ailleurs. Kaboul a connu ces derniers temps une recrudescence de violence avec des attaques ciblées, notamment. Et donc, en fait, tout ça, toutes ces attaques sont perçues, en tout cas par les étudiants auxquels j'ai pu parler, sont perçues comme des sortes d'obstacles horribles, mais à surmonter. C'est-à-dire que tous sont traumatisés, quelques-uns par exemple se réunissent dans des sortes de groupes de parole informels, ont besoin de parler, de discuter de tout ça. Bon, ils sont effectivement complètement traumatisé, mais en fait je pense que la volonté de poursuivre leurs études, de poursuivre leur vie et puis de reconstruire leur pays prend le dessus.
Alors vous le dites, il y a une recrudescence de l'insécurité et des attentats ces derniers temps en Afghanistan, et c'est un moment un peu particulier puisque un cycle historique de négociations s'est ouvert depuis le mois de septembre entre d'un côté l'État liban, de l'autre le gouvernement afghan, des négociations qui pour l'instant n'ont pas abouti, qui doivent reprendre le 5 janvier. Quel est le lien entre ces négociations et le fait que l'insécurité n'ait peut-être jamais été aussi grande et à Kaboul et dans le reste de l'Afghanistan? Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre cela?
Oui, alors en fait, les talibans, ils ont un avantage certain, c'est leur avantage militaire sur le terrain. Et donc, ils ne sont pas prêts, ils n'ont aucun intérêt, en fait, à diminuer ces violences, dans le sens où leur ascendant militaire sur le terrain, il se ressent à la table des négociations. C'est un véritable levier qui leur permet de poser certaines conditions et de s'attendre à ce que le gouvernement afghan, lui, suivent et fassent davantage de concessions. Donc on voit par exemple que dans les campagnes, les affrontements entre les forces afghanes et les talibans ne tarissent pas, et au contraire la violence menée par les talibans contre les forces de sécurité afghanes, donc la police, l'armée et les milices pro-gouvernementales, s'est accrue. En fait, elle n'a jamais été aussi forte selon l'ONU depuis 10 ans, et les talibans, en fait, c'est leur stratégie, on va dire, pour conserver leur avantage à la table des négociations. Dans les villes, en particulier à Kaboul, ces derniers mois, ils ont été marqués par une multiplication des attaques ciblées. Donc, ils se sont enchaînés même de plus en plus rapidement ces derniers mois, en fin d'année 2020.
Quand vous dites les attaques ciblées, pardon, il faut qu'on précise peut-être, les personnes qui ont été assassinées, ce sont des profils un peu similaires. Il y a eu une présentatrice de télévision, un militant des droits de l'homme, des employés gouvernementaux. Là, on n'est pas dans les attentats kamikazes aveugles qui frappent tout le monde. On vise à une certaine partie de la population qui pourrait former une future opposition aux talibans, c'est ça?
Oui, alors il faut faire attention parce que ces attaques ciblées, donc effectivement qui ciblent les journalistes, des femmes qui occupent des postes gouvernementaux et des femmes qui se revendiquent féministes, des employés gouvernementaux, etc. La plupart de ces attaques ne sont pas revendiquées. Donc des responsables talibans ont tout récemment avoué que le groupe était derrière les attaques contre des responsables gouvernementaux, par exemple le vice-gouverneur de Kaboul qui a été ciblé tout dernièrement. Enfin voilà, toutes ces attaques contre des représentants et des responsables gouvernementaux sont parfois revendiquées par les talibans, mais beaucoup de ces attaques restent pas revendiquées. Donc on peut penser qu'il s'agit des talibans, mais également de règlements de compte, parce qu'il y a énormément de criminalité à Kaboul, et il faut aussi se rappeler que Daesh, enfin la faction afghane de Daesh, revendique parfois des attaques contre les civils, et par exemple certains journalistes.
Alors, oui. J'allais dire, terminez, je vous en prie.
Oui, non, en fait, les talibans se défendent absolument de d'attaquer les civils. C'est leur communication qu'ils lissent depuis quelque temps déjà, depuis environ 3 ans, et qu'ils lissent de plus en plus à mesure qu'avancent les négociations. Et donc, les talibans s'érigent en défenseurs du peuple afghan contre ce qu'ils appellent les envahisseurs étrangers, et contre le gouvernement qui ne les protège pas assez, qui ne les représente pas assez, etc., etc. Donc les talibans ne revendiqueront pas des attaques ciblées, par exemple, contre des journalistes ou des travailleurs des droits de l'homme. Ensuite, on n'a absolument aucune preuve quand les attaques ne sont pas revendiquées, et même quand elles le sont, de qui est derrière ces attaques. Et parfois, certaines revendications peuvent aussi être tout simplement des revendications opportunistes.
Depuis combien de temps la branche de l'État islamique présente en Afghanistan agit-elle de cette manière dans le pays, et quel est l'enjeu de sa présence en Afghanistan? Est-ce que c'est une lutte entre factions djihadistes à laquelle on assiste, et surtout la population afghane assiste? Voilà, quel est l'enjeu de la présence de l'État islamique et de cette bataille qui se joue avec les talibans?
Alors, le groupe État islamique, il a émergé en 2014-2015, et en fait, il n'a aucun projet politique, contrairement aux talibans. Enfin, ce sont deux groupes distincts aujourd'hui, on va dire, dans le sens où les talibans, eux, ont un projet politique de longue date. Ils veulent se réapproprier le pouvoir, duquel ils ont été évincés par l'intervention militaire internationale En 2001, le groupe État islamique, lui, revendique de très nombreux massacres contre la population civile, et notamment contre la population chiite du pays, qui est minoritaire. Donc, ils ont attaqué, par exemple, des écoles, des centres de cours du soir, comme je l'ai évoqué, des gymnases. Le groupe État islamique revendique et n'a pas peur de revendiquer des massacres contre les civils. Dernièrement, donc en 2020. Le gouvernement afghan s'était félicité d'avoir totalement vaincu ce groupe en Afghanistan après une intense campagne militaire avec le soutien des États-Unis, dont l'usage des drones armés d'ailleurs avait bondi. Les talibans, eux aussi, ont beaucoup beaucoup participé à défaire le groupe État islamique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce groupe, depuis quelques mois, multiplient les attaques, notamment à Kaboul, justement parce que ils ont perdu beaucoup de territoire dans le pays, mais ils sont toujours capables, et ils veulent en tout cas montrer qu'ils sont toujours capables de revendiquer des massacres de grande ampleur, des tueries, des assassinats, etc. On se rappelle par exemple de l'attaque de la maternité en mai 2020. Une maternité à Kaboul gérée par MSF. Donc cette attaque et ce siège qui avait duré plusieurs heures a été revendiqué par le groupe État islamique. C'est aussi ce groupe, donc comme on l'évoquait, qui a attaqué l'université de Kaboul également pendant un siège de plusieurs heures. Et donc 22 personnes, surtout des étudiants, avaient été tuées. Enfin, il y a plein d'attaques comme ça, notamment dans la capitale, qui sont revendiquées par le groupe État islamique, justement pour montrer qu'il n'a pas disparu, pour montrer sa force, et qu'il est toujours à même de mener des attaques et de semer la terreur sans...
Et de déstabiliser la situation. Margot Ben, vous êtes aussi retournée dans l'un de vos reportages en Kapisa, c'est une province qui est proche de Kaboul, où était stationnée une partie de l'armée française entre 2001 et 2014. Et 6 ans après le départ des forces françaises, vous avez voulu prendre la mesure de la situation en Kapisa.
La France nous a aidés à hauteur de 61,5 millions d'euros. Ces aides étaient destinées aux districts de Tagab, Nijrab, Al-Assaï et Surubi. Je pense que sur ces 61,5 millions d'euros, pas plus de 10 millions d'euros ont été dépensés dans ces 4 districts. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de ces millions d'euros. Pourquoi rien n'a été fait ?
Un témoignage d'un membre du conseil provincial qui se demande où est passé l'argent des aides censées avoir été versées. Cet extrait de l'un de vos reportages diffusé sur France 24 le 4 décembre. Alors que s'est-il passé ? Où est passé l'argent de l'aide au développement après le temps militaire, Margot Ben ?
Alors, je ne sais pas. Des milliards et des milliards de dollars injectés par la communauté internationale, pas seulement en Capissa, mais à travers le pays pour des projets de développement, des projets de reconstruction, ont tout simplement disparu. Enfin, la corruption est l'un des plus gros problèmes en Afghanistan et le reste après toutes ces années. Donc, au cours des 20 dernières années, depuis l'intervention internationale en Afghanistan, de très 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 nombreux projets de développement ont émergé, des milliards de dollars ont été injectés, mais souvent une grosse partie a disparu et voilà. Donc il y a eu des petites enquêtes ad hoc qui ont permis parfois de mettre en cause des responsables gouvernementaux, locaux ou dans le gouvernement central. Mais en fait, dans toutes ces enveloppes qui étaient attribuées à des projets ou bien au gouvernement, eh bien, il est impossible de savoir où exactement est partie une partie de l'argent parce qu'il y a énormément de gens concernés et que la corruption est tout simplement endémique dans ce pays.
Alors ça, c'est sur le volet développement, mais le départ des forces françaises a évidemment aussi eu un impact sur le côté sécuritaire. Et les soldats afghans que vous interviewez, que vous filmez dans vos reportages, ils vous parlent, ils vous témoignent d'attaques quotidiennes, notamment en Capissa. Et ce qui est aussi frappant dans vos images, c'est que ces soldats, ils ont l'air beaucoup moins équipés, beaucoup moins préparés que les troupes françaises.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'armée afghane aujourd'hui et depuis toujours, elle est totalement exsangue. Elle est minée par la corruption. Encore une fois, elle est minée par un leadership souvent inadéquat, par des désertions en masse et effectivement des armes souvent vieilles, dysfonctionnelles. Donc tout cela fait que l'armée afghane aujourd'hui, enfin les soldats afghans aujourd'hui, en tout cas ceux auxquels j'ai pu parler depuis les presque 3 ans pendant lesquels j'ai été basée là-bas, il ne se voit pas réellement à même de repousser les assauts talibans encore très longtemps, sans parler de Daesh et d'autres groupes criminels qui opèrent à travers le pays. Et là, actuellement, ce qui leur fait le plus peur, c'est que... en tout cas au commandant auquel j'ai pu parler, c'est que l'armée américaine se prépare, ou en tout cas se retire de plus en plus. Et en fait, il y a une énorme incertitude sur les mois à venir et les années à venir, avec une présence étrangère qui diminue à vue d'œil et une armée afghane tout simplement.
Et oui, les forces même de... Les forces américaines sont effectivement sur le départ. Le départ était même prévu avant Noël. On parle maintenant du mois de mai, mais c'est effectivement une réalité qui va arriver. Un dernier mot, Margot Ben, vous avez évoqué l'attaque contre la maternité par un groupe armé en mai dernier. Vous y avez consacré un long reportage qui s'intitule « Afghanistan, tu enfanteras dans le chaos » qui est paru le 27 novembre sur Arte. C'est évidemment une réalité absolument poignante. Il y a eu 25 morts lors de cet attentat. Mais pour finir peut-être sur une note un tout petit peu positive, vous avez suivi notamment un nourrisson qui avait été blessé, une petite fille, et qui a été rescapée. Comment se porte cette petite fille aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai des nouvelles toutes fraîches. Je suis allée la voir il y a environ 2 semaines. Elle se porte bien. Sa jambe est toujours, enfin, elle est toujours en convalescence, cette petite fille, mais elle va bien. Elle est dans sa famille. Sa famille souhaite, rester la plus discrète possible. Donc, elle ne fait pas trop de vagues. Et je peux seulement aller leur rendre visite de temps en temps. Mais, en tout cas, la petite Amina se porte bien et elle a subi de nombreuses opérations à l'hôpital français de Kaboul et on espère que la convalescence se poursuivra.
Jamal-e royashta
Merci beaucoup Margot Ben, merci d'être venue ce matin, venue à distance, mais d'avoir été avec nous ce matin dans Culture Monde. Je rappelle qu'on peut lire, on pourra vous lire dans Le Figaro à partir de la semaine prochaine, et puis surtout on peut visionner vos reportages sur les sites d'Arte et de France 24. Je rappelle, étudier à Kaboul dans la crainte des talibans sur Arte, Afghanistan tu enfanteras dans le chaos également sur Arte, et puis la Capissa 6 ans après le départ des troupes françaises sur France 24.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandre.
Et direction maintenant le Sahel. 2021 sera-t-elle l'année du retrait des troupes françaises ? C'est le sujet de notre table ronde jusqu'à midi.
Nous avons, durant ces 6 derniers mois, connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme, avec la neutralisation de chefs redoutés, parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information, parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'État. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'État soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali, au Burkina, dans un contexte, on le sait, très compliqué.
C'était en juin dernier, lors du sommet G5 Sahel en Mauritanie. Le président Emmanuel Macron soulignait les avancées et même les succès de la lutte antiterroriste au Sahel. Un combat pourtant loin d'être gagné. Cette semaine encore, 3 soldats français ont trouvé la mort dans la région dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et l'insécurité est encore plus grande pour les populations locales prises entre la menace djihadiste et les opérations armées. Le premier ministre Jean Castex réveillonnait hier soir avec les troupes françaises basées au Tchad. Le dernier réveillon peut-être d'un officiel français sur place, puisque lors d'un entretien accordé à Jeune Afrique fin novembre, le président français déclarait son intention de faire, je cite, « évoluer l'opération Barkhane ». D'aucuns y ont vu les signes de l'annonce d'un désengagement, mais les armées sur place sont-elles prêtes à prendre le relais ? Où en est-on de cette guerre contre le terrorisme ? 2021, année du retrait de la France au Sahel. Eh bien, on en discute avec nos deux invités. Niagale Bagayoko, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et très bonne année. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, et puis également ce matin avec nous, Bakary Sambé. Bonjour et très bonne année à vous aussi.
Bonjour, bonne année à vous.
Vous êtes avec nous en direct de Dakar. Vous êtes vous directeur de l'Institut de Tombouctou, African Center for Peace Studies, et vous êtes aussi professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et on va commencer avec vous, Marc Semo. Bonjour et très bonne année également.
Bonjour Mélanie, bonne année.
Alors, pas de déclaration de Jean Castex au Tchad sur le retrait des troupes françaises, mais la question est dans toutes les têtes. Combien de temps la France va-t-elle encore rester au Sahel ?
Absolument. Et souvenez-vous, c'était en février 2013, dans Tombouctou libéré, un mois après le début de l'opération Serval, et François Hollande lançait « C'est le plus beau jour de ma vie politique ». L'intervention de l'armée française avait évité que le Mali ne bascule dans le chaos djihadiste, et seuls quelques rares Cassandres mettaient en garde contre le risque d'une guerre sans fin. 8 ans après, cet enlisement est évident. Au Mali, comme dans toute la zone, malgré le passage de relais à l'opération Barkhane et l'implication des militaires de 4 autres pays, Mauritanie, Niger, Burkina Faso et Tchad. Ces opérations, tu le rappelais, ont coûté la vie déjà 47 militaires français. L'Afghanistan, c'était 90 morts. L'ensemble des opérations dans les Balkans, 100 morts. Le vrai problème, c'est en fait l'absence de perspective, malgré de réels succès, dont l'élimination en juin du chef d'ACMI, Drugdel. Les forces du G5 Sahel sont loin d'être prêtes à prendre le relais. Les perspectives politiques sont bouchées et Paris s'oppose à toute forme de négociation avec les groupes djihadistes, même ceux qui ont avant tout un agenda national, malgré les propositions du premier ministre de transition malien, Mokhtar Ouane. Alors, que peut-on faire ? Un dégagement militaire est impossible. Les militaires européens restent présents à minima. À Paris maintenant, on espère surtout que l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden permettra un soutien américain plus consistant que celui qui existait déjà.
Niagale Bagayoko, qu'est-ce que vous pensez de cet état des lieux que vient de nous dresser Marc Semo, qui parle surtout d'absence de perspective ? Quel est votre regard déjà sur la situation aujourd'hui ?
Alors, en effet, la question qui se pose aujourd'hui, en réalité, est celle de savoir dans quel projet stratégique et politique s'inscrit l'opération française. Puisque, comme cela vient d'être rappelé de manière très juste, il y a eu, en effet, indéniablement des succès au niveau tactique, avec l'élimination, en effet, de chef d'ACMI Droukdel, grâce à du renseignement américain d'ailleurs, hein, il s'agit d'une collaboration entre les la force Barkhane et le commandement AFRICOM, donc ça c'est important de le rappeler, et il y a eu aussi plus récemment l'élimination d'un élément important du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est le groupe affilié à Al-Qaïda et qui est dirigé par Yad Aghali, qui est un ancien chef Touareg qui avait joué un rôle très important dans les négociations de libération d'otages. La question qui se pose aujourd'hui est en effet celle de savoir quel est l'objectif politique au service duquel est mis cette opération Barkhane. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être considérée en tant que telle comme un objectif politique. Et j'entendais le président Macron rappeler que l'objectif était celui de ramener la présence de l'État sur l'ensemble des territoires. Mais la difficulté est qu'aujourd'hui l'État est essentiellement perçu comme davantage prédateur que comme protecteur, et n'apparaît pas comme étant capable d'offrir des perspectives aux populations qui le contestent. Alors, dans le cadre d'insurrections, qu'il s'agisse d'insurrections rebelles comme au nord Mali, d'insurrections djihadistes, en effet, mais aussi, comme on l'a vu, d'insurrections populaires qui ont abouti au Mali au coup d'État du mois d'août et même en 2014 au renversement du régime de Blaise Compaoré. Donc, la question de la dimension politique est indissociable de cette question du projet sécuritaire.
Bakary Sambé, est-ce que vous partagez ce sentiment que malgré les succès récents sur un plan militaire, on ne voit plus aujourd'hui quel est le sens de la présence militaire française et quel est l'objectif politique, comme disait Niagale Bagayoko?
Anna?
Bakary Sambé.
C'est vrai que la France s'est toujours positionnée au sein de l'ensemble européen comme étant le pays qui est le plus prédestiné à pouvoir intervenir au Sahel, en fait, du fait de son histoire. Mais malgré cette apparence-là, il faut se rendre compte à une évidence, c'est que le Sahel n'est pas un sujet simple pour la France, parce que la France est tout le temps obligée de digérer l'urgence et l'histoire en même temps. De la même manière que ce pays se positionne comme dans une posture de leader et endossant la responsabilité de mener une intervention collective, la France se trouve souvent seule, aussi bien vis-à-vis de ses partenaires européens qui sont quand même à demi dans un engagement pas très affirmé, que ce soit de l'Allemagne ou des autres. Aucun des pays européens, par exemple, qui disent avoir soutenir cette intervention ne met pas plus de 100 soldats, sauf à inscrire cette intervention dans le cadre de l'AMUSMA et qui est l'engagement au niveau international. Maintenant, je crois que cette présence-là et les autorités militaires locales. J'écoutais le général Namata Oumarou, qui est le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, dire qu'ils avaient besoin de cet appui opérationnel. Maintenant, c'est le problème de toutes les interventions militaires qui s'inscrivent dans le temps avec le risque d'enlisement. Je crois que la leçon de l'Afghanistan devrait être retenue et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir donner un sens à cette présence. Le sens, il est clair. À mon avis, il y a un sens. C'est la lutte contre le terrorisme qui est un fléau contre lequel les pays du Sahel se mobilisent, mais contre lequel aussi ils ont besoin du soutien de la communauté internationale et de la France. Rappelons que Oui.
Oui, pardon, Bakary Sambé, précisément par rapport à vous rappeler la position difficile de la France sur le terrain, et justement le président Macron dans sa fameuse interview à Jeune Afrique le 20 novembre disait aussi: j'ai besoin d'une réitération claire du souhait de nos partenaires de voir la France rester à leur côté. Est-ce qu'il faut y voir une demande de la part de la France de renouveler de la part de ses partenaires une sorte de légitimité pour renforcer la légitimité de l'armée française? Comment vous interprétez ces propos?
Bien qu'on puisse s'offusquer de l'esprit de la conférence de Pau, quand même, qui donnait l'impression d'une convocation, je pense que Emmanuel Macron voudrait clarifier quelque chose, c'est-à-dire que est-ce que les chefs d'État africains n'étaient pas en train de développer un double discours? Un discours sur le plan international demandant l'intervention de la France et d'autres pour lutter contre le terrorisme, et un discours à l'interne pour dire aux populations que oui, nous sommes obligés de le faire. C'est-à-dire que c'est toujours la même problématique pour la France. Il s'agit aussi bien de gagner la guerre contre le terrorisme, mais aussi de gagner la paix avec les populations locales. Donc il y a un conflit de perception du conflit sahélien entre la conception internationale de ce conflit-là avec la France et d'autres, et les perceptions locales. Je pense qu'il faudrait travailler sur ces deux dimensions, mais je ne vois pas au sein du leadership africain, en tout cas militaire, une contestation de la présence militaire française, en tout cas pour ce qui est de l'appui opérationnel, tel que le commandant en chef de la force conjointe l'a dit récemment.
Le général Namata, hein, c'est ça.
Il s'agit d'un double discours des États africains qui parfois n'assument pas la faillite de leurs appareils militaires, la faillite de l'État en tant que tel, et qui cherchent aussi à se réfugier derrière une forme de victimisation. De l'autre côté, la France aussi n'arrive plus à assurer, à jouer ce rôle pleinement. D'autant plus qu'elle ne peut pas, pour l'instant, compter sur un appui européen. On voit la position allemande qui divise même au sein du parti de Merkel, mais aussi l'engagement à demi-teinte de ces Européens qui, guère, ne comptent pas envoyer pas plus de 100 soldats.
Et le général Namata, le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, qui a effectivement exprimé ses craintes du départ de Barkhane, qu'il a jugé prématuré et hasardeux. Marc Semo.
Oui, alors à propos des perspectives politiques ou de l'absence de perspectives politiques, est-ce que vous pensez qu'il faut, comme le proposent les autorités de transition maliennes, discuter avec une partie des groupes djihadistes, du moins ceux qui ne sont pas dans un djihad international et qui ont un agenda national, à commencer par certains groupes Touareg, et c'est la position des autorités de transition malienne, ou bien, comme la France, de refuser absolument toute forme de dialogue, et est-ce que ce n'est pas d'une certaine façon aller vers une impasse pour justement ce retour de l'État et un processus de pacification?
Niagale Bagayoko.
Oui, je pense, juste en préalable, avant de répondre à cette question qui est en effet essentielle et au cœur de l'actualité sahélienne aujourd'hui, qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a besoin d'une cohérence des positions au sein de la coalition internationale pour le Sahel qui a été mise en place du sommet de Pau. Hein, on mentionne rarement ce dispositif, mais aujourd'hui, il faut savoir que ce mécanisme, notamment un mécanisme de commandement conjoint, a été instauré afin de favoriser la coordination des opérations françaises et des opérations du G5 Sahel.
Et est-ce qu'il fonctionne, ce mécanisme, pardon, Niagale Bagayoko? Est-ce qu'un an après, quel bilan on tire de cette coordination locale?
Moi, si l'une des analyses que je fais à titre personnel, c'est que un dispositif institutionnel extrêmement lourd a été mis en place en réalité depuis 2013. C'est-à-dire qu'on a multiplié les structures. Hein, on a quand même créé une nouvelle organisation internationale, parce que le G5, ça n'est pas une force. Le G5, c'est une organisation vouée à promouvoir la sécurité et le développement entre les 5 pays qui la composent. Donc je rappelle le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Et elle s'est dotée seulement en 2017 de cette force conjointe. Mais de nombreux autres mécanismes ont été mis en place. L'Alliance pour le Sahel, qui fait partie de cette coalition internationale et qui est, elle, centrée sur le développement. Le dispositif P3S, qui est un partenariat qui avait été annoncé lors du sommet du G7 de Biarritz en octobre octobre l'année dernière, on voit que aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de mettre en cohérence l'ensemble de ces instruments. On a créé, à mon avis, un monstre institutionnel, et ça avait été notamment souligné par le président Déby lors du sommet de Nouakchott en juin. Pour revenir à cette question centrale des négociations, qui démontre que la position malienne est particulière par rapport à celle des autres chefs d'État, enfin des autres États, pardon, du G5, il faut d'abord comprendre que au Mali, il y a en effet des interlocuteurs avec lesquels discuter. On peut en penser ce que l'on veut, mais le discours des autorités est de dire qu'elles veulent discuter avec les fils du pays. Et en effet, les dirigeants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sont de nationalité malienne. Pour le Burkina, c'est très difficile d'identifier des interlocuteurs de ce type. D'autre part, ce qui est essentiel, c'est de dire que cette question des négociations est très ancienne et qu'elle n'est pas issue à l'origine d'une volonté des autorités exécutives. Il y a eu des assises très collégiales organisées à la fois en 2017 et en décembre 2019, dont la recommandation principale a été d'engager un dialogue. Et le président Ibeka a repris cette recommandation à son compte, tout comme l'ont fait les autorités de transition aujourd'hui. Et il me semble aujourd'hui très compliqué pour la France d'aller à l'encontre de la volonté des autorités d'un État si elles affirment leur volonté d'engager des pourparlers. D'ailleurs, on a vu une évolution dans les déclarations d'un certain nombre de hauts responsables français, notamment du chef d'État-major des armées, même s'il précise bien entendu que la décision appartient aux autorités politiques.
Bakary Sambé, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de négocier à présent avec une partie des groupes djihadistes au Sahel? Est-ce que c'est un choix stratégique qui vous paraît pertinent, ou est-ce que c'est un choix par défaut d'une certaine manière?
Là aussi, il faut d'abord résoudre, je crois, et ce n'est pas tâche facile, les incohérences issues de la résolution 2485 qui encadrait Serval, qui faisait le distinguo entre ce qu'on appelle les groupes terroristes qu'il fallait combattre et les groupes armés. Et qui, dans l'esprit des Maliens, il n'y avait pas pour eux une certaine étanchéité entre ces deux types de groupes-là. Et maintenant, le Mali a voulu inscrire ce dialogue potentiel dans le cadre du dialogue national inclusif. Quand ils disent inclusif, en excluant aucun fils du pays. Des arguments fusent ça et là au Mali en disant que oui, l'Espagne a négocié avec l'ETA, certains pays européens ont négocié avec les groupes qui étaient des groupes armés. Et donc, on ne pouvait pas empêcher le Mali de discuter avec ses enfants, même ses enfants perdus. Maintenant, l'autre inconséquence, c'est cela. Comment un pays peut appeler toute la communauté internationale à la rescousse pour lutter contre des terroristes avec lesquels il veut négocier? C'est tout un ensemble d'incohérences, aussi bien de la part des acteurs internationaux, mais aussi de la part des autorités maliennes qui, de plus en plus, sont dans une forme d'inconséquence. On ne peut pas à la fois appeler au soutien international pour lutter contre des terroristes avec lesquels on entend négocier. Mais cela dit, cela revient aussi à ce pays-là d'en décider, mais je ne vois pas véritablement le sens de ce dialogue-là, d'autant plus que les contentieux restent intacts et qu'aujourd'hui, au Mali, avec la situation sécuritaire, le délaissement de certaines poches à certains groupes aujourd'hui, le fait que les forces spéciales qui composent l'essentiel de la transition, délaissent une bonne partie des positions et s'occupent de politique à Bamako, et que la situation sécuritaire s'empire aussi bien au nord que dans le centre du pays. Je crois que le Mali partage les mêmes incohérences que la communauté internationale, qui aussi, pour s'attaquer à un seul problème, le problème sahélien, a développé pas mal de 19 stratégies et sans coordination. C'est ce méli-mélo institutionnel-là qui fait qu'il y a peu de lisibilité au Sahel.
Oui, et puis avant de savoir s'il est pertinent ou pas de négocier, la question aussi de savoir négocier quoi. Et si on prend le cas du Mali, et notamment de Iyad Aghali, donc qui est l'un des hommes forts aujourd'hui du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est donc un des groupes djihadistes, et qui est souvent là présenté comme un homme qui a un projet pour la région, à savoir notamment à appliquer la charia. Donc encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on va négocier avec cette personne? Est-ce qu'on va négocier une paix durable? Est-ce qu'on va négocier une sorte de partage du territoire? Il y a quelque chose qui reste un petit peu flou, non, sur ces questions, Bakary Sambé?
Pardon.
Mais absolument, c'est-à-dire que l'État-nation, l'État qu'on essaie de restaurer au Mali ou ailleurs, n'a pas le même projet que ces groupes-là. Ces groupes-là, non seulement constituent une menace pour le Mali, mais pour tous les pays voisins. Et aujourd'hui, l'absurdité d'une négociation sur quoi déjà? Qu'est-ce qu'on va négocier avec eux? La deuxième chose, je crois que c'est vrai aussi, hein, il y a les incohérences des puissances occidentales qui, lorsque ça les arrange, font des arrangements, etc., pour libérer des otages, on l'a vu au Burkina, etc., et que, de notre côté, ils disent qu'on ne peut pas négocier, alors que les populations, les opinions publiques savent de fait qu'il y a des négociations, ça et là. Je pense aussi qu'il faudra plus de cohérence dans la lutte contre le terrorisme pour ne pas transformer cette question aussi en une autre problématique qui va davantage creuser les différends déjà assez béants, assez importants entre les partenaires internationaux et les populations sahéliennes qui vivent en même temps des conditions draconiennes sécuritaires autour d'elles tout en vivant en insécurité. Je crois que c'est le lieu de revoir cela et d'être de plus en plus cohérent, mais hélas, ce n'est pas facile pour les politiques d'être cohérent, aussi bien au niveau de la France, mais aussi des pays africains, du G5 Sahel et d'autres.
Niagale Bagayoko, vous vouliez réagir?
Oui, moi, il me semble que cette question des négociations ne doit pas nécessairement être envisagée d'un point de vue global, puisque la situation à laquelle on assiste aujourd'hui est qu'il s'est constitué sur le territoire des différents États, moins au Niger, mais en tout cas au Mali et au Burkina Faso, des espaces de gouvernance locale qui échappent d'ores et déjà à l'autorité des États centraux. Les dispositifs qui ont été mis en place par des groupes djihadistes, mais aussi par des groupes rebelles, il n'y a pas que des djihadistes, et c'est fondamental de le rappeler aujourd'hui, ont pu mettre en place des systèmes dans lesquels les autorités locales ou traditionnelles se sont substitués à l'État en termes d'administration, ou pour ce qui concerne les groupes djihadistes ont pu mettre en place des systèmes locaux de taxation, mais aussi par exemple dans le centre du Mali, si on prend le cas d'Amadou Koufa, d'accès à ce qu'on appelle les bourgoutières, c'est-à-dire dans le delta du Niger, les espaces que doivent utiliser les populations pastorales notamment. Donc ces dispositifs de gouvernance locales seront sans doute au cœur des négociations. Moi, je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'une négociation globale. Il faut savoir que le préalable exigé, notamment par le GSIM dirigé par Iyad Aghali, le seul préalable, c'est le départ des troupes françaises et internationales. C'est le premier élément qui est mis en avant.
Donc, ce à quoi l'État malien a opposé une fin de non-recevoir, il me semble.
Absolument, mais de manière ambiguë, comme l'a expliqué Bakary Sambé, parce que la question aussi est de savoir qui parle aujourd'hui aussi au Mali. Hein. Il y a quand même eu ce coup d'État qui est intervenu. La première déclaration de la junte, donc du CNSP, a été de réaffirmer immédiatement l'engagement, la poursuite du respect des engagements souscrits avec les partenaires internationaux. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a ce discours qui se poursuit autour des négociations. Je souligne simplement qu'il y a aussi des lieux au Mali notamment où il est absolument impossible de réguler la situation à travers une intervention militaire, qu'elle soit internationale ou nationale. Il y a notamment le village de Farabougou qui est assiégé par des djihadistes depuis plus de 2 mois maintenant et où on voit la complexité de tout cet environnement, puisqu'il n'y a pas seulement des djihadistes, mais des milices d'autodéfense communautarisées, des groupes criminels, des chasseurs traditionnels, des légitimités coutumières qui interviennent dans les négociations. Et bien que les forces armées maliennes soient présentes pour apporter une assistance humanitaire aux populations, il est inenvisageable qu'elles interviennent d'un point de vue militaire. Et je ne parle même pas des forces internationales. Donc c'est la problématique de ce type de conflit pour lequel il n'y a pas eu encore aujourd'hui de pensée au niveau national ou international pour trouver des solutions adaptées.
Mais quelles pourraient être ces solutions, puisque Bagale Niagayoko, vous rappelez la complexité des groupes sur place, et puis c'est aussi une analyse que vous avez, Bakary Sambé, de dire le djihadisme au Sahel est aujourd'hui a aujourd'hui des frontières poreuses, avec notamment le grand banditisme, des trafics en tout genre, etc. Donc dès lors, est-ce que la stratégie de lutte antiterroriste est inadaptée? Et si oui, quelle autre solution les États africains ont pour stabiliser, pacifier ces régions? Bagayoko.
À mon sens, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les acteurs sont multiples. Il n'y a pas uniquement des acteurs terroristes ou djihadistes dans l'espace sahélien. Et il faut également se rendre compte que les principales cibles et victimes de la violence des différents acteurs que j'ai cités précédemment, sont les populations civiles. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser des stratégies mettant avant tout la protection des populations au cœur du dispositif. Et bien entendu, la lutte contre les groupes armés terroristes fait partie de cette problématique-là, mais elle n'en est qu'une dimension. Et je pense que ça change totalement la perspective. Il est essentiel que la protection de ces populations soit mise au cœur du dispositif, ce qui veut dire que l'instrument militaire est un outil, mais qui doit être complété par l'ensemble de la chaîne pénale, que ce soit le renforcement des forces de police, que ce soit le renforcement des acteurs judiciaires ou des services de renseignement. C'est, à mon avis, une façon de considérer de manière différente la complexité de la situation aujourd'hui au Sahel.
Renforcer l'État, renforcer les politiques publiques, les infrastructures, c'est aussi ce que disent de nombreux acteurs. Bakary Sambé, est-ce qu'on en prend le chemin?
Oui, je vois que jusqu'à présent, la communauté internationale, la France, les partenaires du Sahel, ont quand même avaient jusqu'ici privilégié quand même le tout militaire, qui à mon avis n'a pas pu régler cette problématique-là. La dimension sociale, la dimension économique, la dimension de la gouvernance reste entière aujourd'hui dans ce type de conflit. Et comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Niagale, il n'y a pas une uniformité des acteurs. Il y a ce qu'on appelle les groupes terroristes et les groupes armés, ça aussi au niveau du Mali c'est assez visible, mais je crois qu'aujourd'hui la crainte est de voir tout cela avec la faillite sécuritaire des États qui a donné quand même naissance à tous ces milices, notamment au centre, avec la quand l'État en arrive à un tel désarroi que cet État délègue la sécurité à des milices d'autodéfense, c'est-à-dire que cet État-là est arrivé à un niveau de faillite assez avancé. Et aujourd'hui, il faudrait restaurer cela, restaurer l'État, mais aussi sécuriser les populations locales. Mais au-delà de les sécuriser aussi, répondre aux besoins essentiels qui sont là, qui attendent. Le nexus, on parle beaucoup de ce nexus développement et sécurité, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une véritable panne d'idées au Sahel, malgré la multiplicité multiplicité des initiatives et la multiplication des stratégies, mais je crois, et je le défends toujours, on n'a pas assez donné la place qui leur est due à ce que j'appelle aux stratégies endogènes de résilience. Est-ce qu'on a cherché dans la culture africaine, dans les stratégies endogènes culturelles, dans les ressources culturelles endogènes africaines, des éléments de régulation, des éléments de résolution de conflits? Est-ce qu'on a assez impliqué les leaders religieux, les leaders traditionnels? Est-ce qu'on a impliqué les femmes? Je crois qu'on s'était obstiné à développer des stratégies militaires qui, in fine, ne payent pas encore, mais on a complètement négligé la capacité des Africains eux-mêmes et dans ce que j'appelle leur tréfonds culturel à pouvoir réinventer des solutions pour faire face à des problèmes. Tous ces mécanismes traditionnels, tous ces mécanismes non militaires n'ont pas été explorés. Et hélas, on est arrivé à cette panne-là. Et je pense que c'est le lieu de le faire maintenant. De plus en plus, on en parle. Mais je crois qu'il reste encore à rendre opérationnel ces mécanismes-là et à se rendre à l'évidence que, comme on le dit souvent, le terrorisme, c'est bien, il y a un aspect purement sécuritaire, militaire, mais on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité quand même qu'une Kalachnikov puisse tuer une idéologie. Il faut de l'éducation, il faut de l'éducation à la citoyenneté, à la tolérance, et bref, la restauration des systèmes éducatifs, le chantier sahélien est complètement énorme aujourd'hui et que le tout militaire ne règle pas le problème.
Et sur toutes ces pistes que vous évoquez, Bakary Sambé, est-ce qu'il vous semble qu'il y a peut-être un État ou un gouvernement local qui a l'intention et qui peut-être en 2021 pourrait mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces nombreuses pistes que vous suggérez pour résoudre plus profondément la crise au Sahel? Est-ce que vous avez des raisons d'avoir un petit peu d'optimisme pour 2021 sur ces questions ?
Il y a des raisons d'optimisme qui ne me viennent pas du Sahel, mais du bassin du lac Tchad, où, avec la force multinationale conjointe, on s'est rendu compte que les solutions purement militaires ne pouvaient pas prospérer et on est arrivé à un dialogue civilo-militaire. Renverser la tendance dans ces territoires, faire des populations locales les alliés des forces militaires qui interviennent et ne pas les transformer en alliés des forces terroristes. Parce que les populations locales, parfois, ne supportent pas les terroristes parce qu'elles aiment le terrorisme. C'est parce qu'elles les considèrent parfois comme des forces protectrices en face d'un État dont on voit seulement l'aspect. L'État est bien présent dans son aspect répressif et plus ou moins absent dans son aspect protecteur. Je pense que le dialogue civilo-militaire, le fait de s'occuper des populations elles-mêmes, renforcer ce dialogue civilo-militaire, je crois que ce serait quelque chose à expérimenter aujourd'hui, mais aussi en impliquant les populations dont les populations ou les acteurs dont la voix porte, dont les solutions font sens auprès des populations, il faudrait véritablement donner toute leur chance aux ressources endogènes aujourd'hui. Et je crois que c'est possible au Niger, par exemple, avec la mise en place après la période de rébellion de la Autorité de consolidation de la paix, la HACP, et d'autres mécanismes qui existent dans d'autres pays, comme le rôle des chefs traditionnels au Burkina Faso, au Mali aussi le rôle de certains chefs traditionnels qui, à mon avis, pourraient jouer un rôle très très important dans cette sortie du tout militaire pour s'acheminer vers des solutions co-construites.
Une question de Marc Semo.
Oui, le militaire ne suffit pas, mais il reste quand même essentiel. Qu'est-ce que vous espérez sur ce plan de l'arrivée de Joe Biden à la présidence? Alors, il y avait déjà une coopération, notamment, on l'avait évoqué tout à l'heure, en matière de renseignement aérien et satellitaire. Est-ce que vous espérez qu'avec Joe Biden, il puisse y avoir un engagement un peu technique de support, voire même d'envoyer quelques troupes des Américains?
Diangale Bagayoko.
Pardon. Oui. À titre personnel, je n'y crois pas du tout. La politique africaine de sécurité menée par les États-Unis a une grande continuité, quelles qu'aient été les administrations démocrates ou républicaines. L'Afrique a toujours été considérée à travers le prisme de ce qu'on appelle le benign neglect, c'est-à-dire comme figurant au dernier rang rang des priorités de la politique étrangère. Sous l'administration de Donald Trump, il y a eu en effet des déclarations extrêmement virulentes, comme le président en était coutumier, laissant entendre qu'il pourrait y avoir un retrait des forces américaines, mais cela ne s'est pas produit. Le commandement américain pour l'Afrique, l'Africom, et ça, notamment son volet US Army reste actif. Je ne pense pas qu'il faille attendre une hausse significative de cet engagement. Je pense qu'il restera constant, et il existe. Juste pour, si je puis juste me permettre,
je vous en prie,
de rebondir, sur ce que disait Bakary, quand je parle en effet des questions de gouvernance, d'espace de gouvernance locale, je fais en effet référence à l'ensemble de ces acteurs non étatiques qui font la promotion de solutions beaucoup plus ancrées en effet dans des approches traditionnelles et coutumières, mais il y a également des questions qui touchent à la gouvernance plus large au niveau de l'État. À mon avis, en effet, l'instrument militaire est essentiel, mais il ne faut pas le considérer seulement du point de vue des capacités opérationnelles et des capacités de combat. Et c'est sans doute l'une des erreurs qui, à mon avis, a été faite. Renforcer des appareils de sécurité, cela signifie aussi renforcer leur gouvernance. Et malheureusement, en 2020, on a assisté à des scandales absolument frappants dans les détournements des budgets de la défense, particulièrement au Niger, mais aussi au Mali, au Burkina Faso, qui se chiffrent à des milliards de francs CFA, ce qui est d'autant plus inadmissible que les soldats meurent au front sans être dotés toujours des ressources matérielles dont ils ont besoin. Ça, c'est la première question. Et le deuxième volet en termes de renforcement des capacités des armées, c'est celui du respect des droits de l'homme, parce que là aussi, malheureusement, l'année 2020 s'est caractérisée par la multiplication des révélations, des dénonciations de violations de droits de l'homme par des unités des armées africaines. Et ces volets doivent absolument faire l'objet d'un investissement plus important. Mais il faut savoir qu'il y a des institutions en Afrique, dans ces pays, qui jouent un rôle en la matière. Le rôle de la Commission nationale des droits humains au Niger, là encore, a été fondamental dans la mise en lumière de faits reprochés à l'armée nigérienne.
Et notamment,
donc, il ne faut pas croire que rien ne se fait.
Niagale Bagayoko, et il faut aussi mentionner le rapport paru fin décembre de la Commission internationale sur le Mali de l'ONU, l'armée malienne étant accusée de crimes de guerre, notamment contre les populations peulées arabes qui sont souvent associées au groupe djihadiste. Il nous reste quelques instants. 2020, puisqu'on parle du Mali, ça a été aussi l'année du coup d'État, de l'arrivée du renversement de Ibrahim Boubacar Keïta et de l'arrivée de l'armée. On en est où aujourd'hui de la transition démocratique promise par l'armée au Mali, et quelles conséquences sur la lutte antiterroriste? Il nous reste quelques minutes. Bakary Sambé.
Oui, au Mali, c'est comme si on était revenu au statu quo de 2012, c'est-à-dire une crise institutionnelle bien installée à Bamako, une crise sécuritaire qui perdure au nord. Je crois que les premiers signaux ne sont pas rassurants du tout. J'étais à Bamako il y a quelques jours, où les militaires quand même s'accaparent de plus en plus du pouvoir, et que aujourd'hui, avec la nomination de gouverneurs militaires, etc., ce qu'on voit s'installer, notamment avec l'arrivée de Malick Diaw à la tête du CNT, ça montre que les militaires ne se donnent pas les signaux de vouloir abandonner le pouvoir. Maintenant, j'avais une petite remarque sur les États-Unis. Je crois qu'il faudrait être moins naïf sur la stratégie américaine au Sahel, où, je rappelle, récemment, il y a un envoyé spécial des États-Unis au Sahel du nom de Peter Pham. Mais aussi, ce qu'on oublie, c'est que les États-Unis ont une toute autre stratégie. C'est-à-dire que les États-Unis ont choisi de laisser le travail militaire se faire par les autres pays tout en travaillant dans l'influence. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui contrôlent l'élaboration des stratégies de lutte contre le terrorisme et de l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel. Je crois que les États-Unis sont engagés, mais d'une autre manière, peut-être en attendant que les autres systèmes lâchent pour arriver en force.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Niagale Bagayoko, politologue présidente de l'African Security Sector Network. Et merci à vous, Bakary Sambé, directeur de l'Institut Tombouctou et professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci infiniment à vous, Marc Semo. On vous retrouve vendredi prochain dans Culture Monde avec Florian Delorme et le sujet dont nous parlions ce matin. Bien sûr, nous aurons l'occasion plusieurs fois d'y revenir, certainement en 2021.